Bon dimanche, Dieu vous bénisse, ça va bien?
Oui,
ça va. C'est bien, c'est bien. Eh bien, aujourd'hui, c'est un jour spécial, puisque à 16h, nous avons une réunion spéciale pour au sujet de la nouvelle lune, c'est cela, n'est-ce pas?
Oui.
Et pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, je vous invite à aller voir sur Révélation Bible. Vous avez une photo d'une lune magnifique, et à côté, il y a de quoi lire. Vous pouvez cliquer, lire et apprendre. Pourquoi est-ce que... À des moments comme cela, eh bien, nous avons un moment de prière, tous les frères et sœurs de la communauté, plus des centaines d'autres personnes qui nous connaissent sur Révélation Bible et qui se joignent à nous dans une chaîne de prière autour de cette terre, parce que c'est des moments importants. Il y a beaucoup de sorcellerie qui est pratiquée à ces moments-là, un peu partout sur la terre. Et nous voulons nous tenir devant la porte de nos ennemis et repousser nos ennemis derrière leur porte. C'est ça notre travail. Eux font le leur, nous faisons le nôtre. Amen. Cet après-midi, nous avons notre frère Morgan Priest qui a une réunion à Paris, à la Main d'Or, dans les locaux de Dieudonné. Il fait une réunion là, il fait une conférence. Et j'aurais dû y aller, mais j'en suis empêché, mais je veux lui dire par Internet là que nous serons tous en prière aussi pour lui pendant, justement, ça commence à 16h sa réunion et nous commençons à 16h la prière ici. Nous serons tous en prière pour lui. Amen.
Oui,
c'est bien. Voilà, et puis je pense qu'il va descendre dans la deuxième quinzaine de mars pour venir nous voir, se reposer un petit peu. Il fait beaucoup de choses. Et puis voilà, et puis nous nous préparons, nous, pour une mission en Afrique. On va y aller à 5, ça va être formidable, on se réjouit. J'ai encore eu Nicolas au téléphone hier qui est tout content, qui prépare les choses et qui me dit « Mais s'il fallait vraiment, vous pourriez rester des mois parce que tout le monde veut que vous veniez. » Voilà, ça fait plus d'un an qu'ils nous ont pas vus, donc ils sont impatients de voir que nous arrivons. Et nous arrivons, par la grâce de Dieu, nous allons y aller, et nous allons pouvoir construire, enfin, nous n'allons pas pouvoir construire, nous allons pouvoir faire les photos du moulin et des châteaux d'eau que notre association lui offre, parce que nous allons le voir, là, dans quelques jours, Nicolas Savadogo, il est envoyé par le Burkina Faso en tant que maire d'une ville de 58 habitants, il est envoyé au salon de l'agriculture. Et donc il va faire un petit crochet par chez nous, et puis c'est là que nous lui remettrons en main propre l'argent pour qu'il puisse acheter tout le matériel. Et quand nous arriverons, ben, ça sera fait, ça sera monté, on n'aura plus qu'à prendre les photos et couper les rubans rouges. Vous êtes contents? Ah, il faudra faire un beau film pour mettre sur Révélation Bible. Et je tiens encore à remercier tous les donateurs. Continuez, soyez fidèles, continuez, on va faire encore de grandes choses ensemble, j'en suis persuadé. Voilà, on n'a pas fini, hein. Le diable a voulu me tuer, mais il m'a pas eu. Pauvre diable, comme disait Osborne, hein. Pauvre diable. On est encore là, on n'a pas fini de le gratouiller. On est sur cette terre des pèlerins étrangers, mais voilà, nous affirmons qui nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Notre grand frère aîné, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça, c'est la vérité. Ce matin, je voudrais qu'on ouvre nos Bibles dans Matthieu chapitre 4, verset 4. C'est Jésus dans le désert. Il a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il se peut que vous soyez dans un désert, mais c'est le Saint-Esprit qui vous conduit dans le désert afin d'y être éprouvé et tenté par le diable. Et vous avez à répondre au diable, aux démons, aux esprits de mort qui sont là dans ce désert, avec dignité, mais répondre comme Jésus. Il est écrit. Amen. Il est écrit. Jésus répond au diable, dans verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Amen. Voilà. On est en pleine période d'élection présidentielle. On va en rire pour ne pas en pleurer, parce que c'est vraiment, je trouve, c'est lamentable de voir dans quel étalage, n'est-ce pas, enfin bon, voilà. Et alors, je lis souvent sur Internet des commentaires à gauche, à droite, et il y a beaucoup de gens qui disent « Ne soyez pas des moutons, ne soyez pas les moutons. C'est vrai, ne soyez pas les moutons, c'est vrai. Mais quand je vois que Jésus nous traite de brebis, alors, n'est-ce pas, voilà, ça me fait réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'une brebis? En fait, je sais pourquoi Jésus nous appelle ces brebis et je voudrais vous en parler ce matin. Vous voyez, le mouton, il suit son berger. C'est dans sa nature. Il suit le berger, il connaît la voie du berger et il suit son berger. Il ne va pas se tromper de berger, il va suivre son berger. Donc le problème, ce n'est pas d'être une brebis. Le problème réside non pas dans notre nature de brebis, mais à qui nous appartenons, à qui notre vie a été consacrée, et quelle est la nature du berger que nous suivons. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Alors ne soyez pas les moutons, d'accord? D'accord, ok, moi je suis tout à fait d'accord avec cette histoire-là, mais moi je veux être une brebis du Seigneur, Jésus, Christ, Fils de Dieu, et écouter ce qu'il dit, j'entends sa voix, et je fais ce qu'il dit. À ce moment-là, j'ai aucun problème à suivre. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est clair, c'est net. Maintenant, si les moutons français veulent choisir encore un mauvais berger, ben, libre à eux de délire, n'est-ce pas, encore le plus corrompu, le plus pourri, le plus ceci, le plus cela, ça les regarde. Mais moi je dis que les brebis, elles ont le berger qu'elles méritent. Voilà. Et moi j'ai choisi Jésus-Christ, mon Seigneur. Quand Raphaël a fait l'appel en 1968, ce 1er juin 1968, dans cette maison du peuple à Lausanne, et qu'il a dit « Qui veut recevoir Jésus-Christ comme son sauveur et son maître ?» Moi j'ai dit « Moi !» J'étais le premier à me lever et à aller vers l'estrade pour qu'on prie pour moi. Je voulais me consacrer à Jésus-Christ. Alors vous me direz « Oui, mais c'est pas toi qui as choisi, c'est Jésus qui t'a choisi. » Oui, c'est vrai. C'est Jésus qui m'a choisi, mais j'ai reconnu sa voix quand il m'a appelé, et je suis allé, et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, si vous reconnaissez votre voix dans le pasteur qui vous prêche, ou dans le mercenaire qui vous conduit, ben, libre à vous de suivre, n'est-ce pas, c'est votre destinée. Eh ben, c'est bien, mais ne venez pas vous plaindre, c'est bien, vous êtes, c'est votre nature, et vous avez, c'est bien, c'est bien. Quand je lis ma Bible, je vois que Jésus est le bon berger. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Et je vois que Jésus, le bon berger, demande à Pierre, juste avant de repartir au ciel, il dit à Pierre, paie mes brebis. C'est du verbe paître, c'est-à-dire qu'il le nomme berger de son troupeau. Il lui délègue une autorité. Donc Jésus, le bon berger, demande à Pierre, ordonne à Pierre de devenir lui-même un berger pour paître les brebis. Un conducteur de troupeau appartenant à Jésus, c'est magnifique. Quelqu'un qui est ordonné par Jésus pour être un dirigeant de troupeau, qu'est-ce que vous voulez de mieux? C'est magnifique. Un conducteur du troupeau qui appartient à Jésus. Il faut toujours savoir qu'un pasteur, c'est juste un serviteur de Jésus et du troupeau. Parce que le troupeau n'appartient pas au pasteur, il appartient au grand bon berger qui délègue son autorité. Et il aura des comptes à rendre de la façon dont il aura travaillé avec ce troupeau, dans quelle direction il l'aura emmené, ce qu'il aura fait faire et toutes ces choses. Pierre était-il un bon berger? Oui!
Oui,
bien sûr, c'était un bon berger. Aussi bien que Jésus? Non, oh, venez pas me dire que Pierre était aussi bien que Jésus. Vous croyez que Pierre était aussi bien que Jésus, vous? Non, il avait des miracles, il avait tout ce que vous voulez, c'était formidable, mais il n'était pas aussi bien que Jésus. Ni moi, d'ailleurs. Si vous voulez trouver des défauts à Pierre, vous allez l'en trouver. D'ailleurs, on voit, ça transpire entre Pierre et Paul, il y avait des petits, hein. Et voilà, mais voilà, si vous voulez trouver des défauts chez un vrai, authentique berger du Seigneur Jésus, ordonné par Jésus, reconnu, n'est-ce pas, de toute façon, il ne sera pas parfait. Mais il était toutefois un bon berger humain, fidèle, craignant Dieu et aimant les brebis, ne cherchant pas, n'est-ce pas, faut juste les engraisser pour pouvoir les tondre et les bouffer. Hein. C'est ça le problème. Avec mon épouse, quand on a créé la communauté, c'était pas pour vous tondre, mais c'était pour que vous veniez vivre avec nous, ensemble, tous ensemble, pour que nous prospérions ensemble. Et n'avons-nous pas prospéré ensemble? Oui. Et maintenant, nous en sommes où nous en sommes. Ensemble, c'est une bonne chose, c'est une bonne vie. Et je crois qu'on n'a volé personne, vraiment, devant Dieu. J'ai pas du tout cette impression. Au contraire, on en a enrichi plusieurs. Je peux vraiment le dire sérieusement. Je vois que là, dans l'auditoire, il y en a qui font oui avec la tête. C'est vrai. Mais vous avez aussi des brebis galeuses qui pensent que ce que je dis là est faux. Libre à eux, hein, c'est leur destin. Ils ont comme ça, ils ont été fabriqués comme ça, je ne peux pas leur en vouloir. Donc, Pierre était un bon berger, humain, avec ses faiblesses, mais c'était un bon berger. Maintenant, dans l'Église, on sait, les apôtres nous en parlent, qu'il s'est glissé, qu'il se glisse encore, des gens qui ne sont pas de bons bergers. Et Jésus, lui, les appelle des mercenaires. C'est-à-dire des gens qui font juste ça parce que c'est un métier comme un autre. C'est pas mauvais d'exercer un métier comme un autre. Mais disons que voilà, c'est quand même un peu étrange, n'est-ce pas, qu'on rentre au service de Jésus-Christ juste pour exercer un métier. Voilà. Alors on dit, bon, je me rappelle quand j'étais petit, mon père il disait, les pharmaciens, c'est ceux qui ont raté leur examen pour être médecin. C'est pas tout à fait juste, je crois. Mais il avait cette idée-là, vous voyez, c'était dans les années 50. Ben, il y en a beaucoup, malheureusement, et là ça c'est vrai, il y en a beaucoup qui sont pasteurs parce qu'ils peuvent rien faire d'autre. Ils ont juste une grande gueule, ils parlent bien, et puis voilà, c'est tout, mais à part ça, il n'y a rien, c'est zéro. La question, elle est là, quelle sorte de berger suivez-vous? C'est pas la question de ne pas être un mouton ou d'être un mouton, nous sommes des brebis du Seigneur, point barre, on le sait. Maintenant, quel berger suivez-vous? Humain. Quel bon berger humain ou quel mauvais berger humain suivez-vous? Un bon berger, pas parfait, mais fidèle au grand bon berger, ça va. De temps en temps, il fera des bêtises, mais le Saint-Esprit ne permettra pas que ça soit trop grave, ça va être rattrapé et puis tout le troupeau va en être béni. Avec le mercenaire, c'est différent. Parce qu'aussitôt qu'il y a un problème grave, eh bien, il fuit. Il s'en va, il fuit, il laisse tomber les brebis. Est-ce que j'ai laissé tomber les brebis en fuyant le château? Pas du tout. Les brebis m'ont suivi. C'est tout. C'est tout. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc, où est-ce que vous êtes, vous, en tant que brebis? Êtes-vous une brebis qui suit un mercenaire ou êtes-vous une brebis qui suit un bon berger humain avec ses faiblesses? Bon, je sais que pas mal de brebis contrariées ont vite fait de taxer leur gentil berger véritablement ordonné par Jésus de mercenaire, parce qu'il y a des jugements, parce qu'il y a des critiques, parce qu'il y a des gens qui sont plus ou moins obtus dans leur tête, et quand ils voient la moindre des choses un peu décevantes dans leur berger, ils le taxent tout de suite de mercenaire. Ça, vous ne pouvez pas l'empêcher. Mais vous-même, vous devez savoir sérieusement devant Dieu si vous êtes en train d'exercer un jugement ou si vous êtes face à un bon berger qui peut commettre des erreurs, mais qui, finalement, n'est pas un mercenaire, quand même. Alors, est-ce que vous jugez, ou est-ce que vous appréciez que c'est vous-même, personnellement. Il faut avoir un peu d'autonomie dans la vie, pour pouvoir réfléchir soi-même, par soi-même. Je suis certain que Jésus veut que chaque brebis soit autonome et indépendante. Bien sûr qu'on est le troupeau du Seigneur, bien sûr qu'on est guidé par un berger humain qui est lui-même inspiré par le grand berger qui est Jésus-Christ, mais chaque brebis a quand même sa responsabilité, donc elle doit avoir son autonomie, son indépendance. Il est nécessaire à votre salut de devenir plus autonome spirituellement. La question c'est, mais comment faire pour être autonome? Eh bien, Paul le dit, Paul l'explique, il faut lire les écrits de Paul. C'est malheureux que si peu de gens connaissent les Saintes Écritures. Un disciple accompli est dans un état dans lequel il mérite d'avoir l'Évangile écrit, non avec de l'encre sur du papier, mais écrit par le Saint-Esprit sur les tables de son cœur. Parce que là, ça commence à devenir vivant. Parce que le cœur est vivant, le papier. Alors, le Saint-Esprit est-il votre merveilleux compagnon? Ou est-ce que c'est simplement votre intelligence, par votre intelligence, que vous lisez les Écritures et que vous jugez de tout? Si vous jugez de tout par votre intelligence, vous êtes charnel. Si vous jugez de tout par le Saint-Esprit, vous êtes spirituel. Vous êtes spirituel, donc vous pouvez juger par le Saint-Esprit. Mais comment savoir si vous êtes spirituel? Tout le monde se croit spirituel. Alors qui est spirituel, qui ne l'est pas? C'est ça le problème. Moi, je dois savoir pour moi-même. Et vous, vous devez savoir pour vous-même. Et vivant avec les gens, je dois me faire une opinion quand même au sujet des gens. Et en tant que berger, et même vous, en tant que brebis, vous avez le droit de reprendre un frère, une sœur, pour lui parler, parce que vous avez une autonomie spirituelle qui vous permet de le faire. Quand vous voyez que quelqu'un se trompe sur quelque chose, vous pouvez aller le trouver, lui parler en lui disant, voilà, par exemple, Michel, ben, je ne comprends pas, il y a un truc, ça ne joue pas, et tout. Et ça arrive chez nous, non? Bien sûr, moi, souvent, il y a un frère, une sœur qui vient vers moi, il dit, Michel, là, je ne comprends pas, et tout, puis on parle. Si c'est le Saint-Esprit qui est votre merveilleux compagnon, les choses se passent bien. Comme on dit dans le monde, ça baigne dans l'huile. Sinon, ben alors, voilà, ça devient dramatique. Mes frères et sœurs, je suis votre berger ici, dans l'église locale, et c'est une réalité dont j'ai bien conscience, mais je vous encourage à étudier personnellement et à mettre en pratique personnellement les principes de l'autonomie. Absolument. Les principes de l'autonomie. Allez regarder ce que ça veut dire autonomie dans le dictionnaire. Vous allez voir, c'est large. Je vous promets que si vous faites ça, vous serez béni. Vous serez béni. Combien de ministères ont été étouffés dans les églises parce que les gens n'ont pas osé exercer l'autonomie et ils ont suivi leur bon pasteur qui avait un jugement erroné du fait qu'il ne connaissait pas bien sa brebis. Parce qu'il ne la voyait que le dimanche, assis devant, là, dans la réunion, puis c'est tout. Puis une visite une fois ou deux par an, il ne connaissait pas sa brebis, il ne savait pas qu'elle avait reçu quelque chose de Dieu. Et le frère ou la sœur disait, moi je me sens un appel de Dieu. Et puis chaque fois qu'il se trouvait dans l'église ou face au pasteur dans le bureau, il était remis à sa place sur la chaise devant, là, et puis il ne pouvait pas bouger. Et combien de ministères magnifiques ont été gâchés par manque d'autonomie? Parce que les brebis n'ont pas osé dire, mais moi je sais que j'ai reçu quelque chose de Dieu, je veux le faire valoir. Même si le bon pasteur dit non, il peut se tromper. Oui ou non? Je ne vous encourage pas à être des rebelles, mais je vous demande d'être intelligent spirituellement. Et je vous fais confiance, parce que je sais, en tout cas dans la communauté, que vous êtes des gens qui vous consacrez à lire les Écritures et à mettre toujours en pratique les choses que vous y trouvez. Pour qui? Comment peut-on obtenir cette autonomie? Eh bien, celui ou celle qui écoute et garde les enseignements du berger délégué, déjà ça c'est une bonne base. Même si c'est un mercenaire, vous allez dans une église, je ne veux pas donner le nom, mais vous avez des... Par exemple, en Suisse, on a une église d'État. C'est-à-dire que les pasteurs sont payés par l'État. Ça c'est... Pardonnez-moi les pasteurs d'État qui m'écoutez, mais pour moi, vous êtes l'image même du mercenaire. Mais pourtant, parmi ces gens-là, il y a d'authentiques, véritables, vrais serviteurs de Dieu. Eh oui, même s'ils sont payés par l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut que vous ayez cette liberté dans le Saint-Esprit pour savoir à qui vous avez affaire quand vous vous trouvez à l'église et ne pas vous rebeller bêtement parce que la sœur est telle ou parce que le frère est tel. Non, c'est spirituellement que vous devez juger ces choses-là. Celui ou celle qui garde, qui écoute et qui garde les enseignements du berger et qui montre dans la réalité sa dévotion simple et quotidienne, en tant qu'individu, celui-là, eh bien, il peut obtenir l'autonomie béni de Dieu avec le sceau, le tampon du Seigneur. Véritablement. Même si son berger est un mercenaire. Vous voyez? Ça, c'est le critère. Mais quand vous avez des gens qui sont toujours en train de contester, c'est pas possible. C'est par des esprits de dispute. Vous en avez qui prêchent parce qu'ils veulent se faire voir. Vous en avez qui veulent avoir un ministère pour gagner de l'argent. Vous en avez l'autre, c'est pour la gloire. Il y a toutes sortes de choses qui se produisent. Et alors, souvent, ce qui peut arriver dans l'Église, c'est que les pasteurs mettent à l'épreuve les uns les autres pour voir quel esprit anime les chrétiens qui disent « Je crois que j'ai reçu quelque chose de Dieu ». Ne prenez pas ça mal, laissez-vous éprouver. Pourquoi ? Vous avez peur de ne pas passer l'épreuve ? Laissez-vous éprouver. Écoutez et gardez l'enseignement du berger que Dieu a mis dans l'église, votre église locale. Ne vous rebellez pas. Vous voyez, la vérité vous rend libre, c'est-à-dire autonome, mais encore faut-il que la vérité vous ait été enseignée. C'est pas parce que vous avez levé votre main dans une réunion, que vous avez été trempé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, ou au nom du Père, du Fils, ou du Saint-Esprit, ou au nom du Seigneur, ou je ne sais comment, que vous êtes un disciple. Non, vous n'êtes pas encore un disciple. Vous êtes quelqu'un qui commençait à marcher sur le chemin de Dieu. Vous pouvez avoir marché pendant 10, 15, 20 ans, si vous n'avez pas fait autre chose que simplement vous asseoir à l'église, rendre témoignage de trois fois dehors, à votre postière. Bon, excusez-moi, vous n'êtes pas... voilà, il faut... Enfin, quand même, je ne sais pas, moi, il faut... Quelle vérité vous a été enseignée ? La qualité de la vérité qui vous a été enseignée, eh bien, elle se voit dans la qualité de votre dévotion simple et quotidienne en tant qu'individu dans la vie de tous les jours, dans votre famille, dans votre travail, partout. Ça se voit. Mais alors donc, comme je disais, il faut que la vérité soit enseignée et que les brebis s'appliquent à y obéir. À y obéir. Je me souviens de quelqu'un qui disait « Moi, je ne peux pas obéir à ça parce que je ne comprends pas. » Oui, c'est vrai que c'est mieux quand on comprend. Mais une brebis, si le berger lui dit « Il faut aller par là », expliquer la brebis dit « Ah bon, mais pourquoi ? Je ne comprends pas, je ne sais pas, je ne vois vraiment pas pour quelle raison et tout. » Et puis, bon ben non, je me sens pas poussé à aller par là, je vais plutôt aller par là. Le berger, en général, quand il dit quelque chose, il sait pourquoi il le dit. Il sait que, par exemple, par là-bas, ben, il y a un ravin, ou il y a des ronces, ou il y a un loup, je sais pas quoi. Donc, il a été nommé par Dieu pour faire un travail d'une façon correcte. Et la brebis, même si elle comprend pas, elle obéit. Et puis c'est en obéissant qu'elle va commencer à comprendre. Mais tant qu'elle n'obéit pas, vous voyez que c'est pas simple, ça n'est pas facile, ça n'est pas simple. C'est pourquoi vous devez être soumis, mais en même temps autonome. C'est pas simple. C'est l'art du grand écart, ça. C'est l'art du grand écart. Alors, il faut que la vérité soit enseignée, ensuite que les brebis s'appliquent à obéir. Il faut qu'elles étudient personnellement les Saintes Écritures pour apprendre à marcher, pour apprendre à progresser, en faisant un festin de la parole de Dieu, mais un festin personnel, bouffé-là en Suisse, comme on dit. C'est-à-dire que c'est bien de venir écouter la parole de Dieu chaque dimanche, ou chaque vendredi, ou sur Internet, comme vous voulez, mais quand même, vous devez avoir des moments privés, à vous, où vous mangez en Suisse, comme on dit, c'est-à-dire tout seul dans votre coin, où vous faites un repas, un petit festin formidable de la parole de Dieu. Si vous ne faites pas ça, c'est pas bon signe, hein, pour une autonomie. C'est pas bon signe. Un disciple accompli ne peut le devenir sans toutes ces choses-là. Il ne peut pas devenir accompli s'il n'y a pas toutes ces choses-là. Un disciple de Jésus-Christ ne peut obtenir cette autonomie spirituelle sans obéissance à l'autorité dans l'Église, parce que l'Église a été créée par Jésus-Christ. Vous allez me dire, mais Michel, tu te contredis, l'autre jour tu nous as dit, sortez du milieu d'elle. Oui, il y a un moment, quand on voit que c'est pas possible, que l'Église est complètement dans l'erreur et dans la mort, il faut sortir, mais pas sortir pour sortir, ou sortir pour aller dans une autre qui est à peu près pareille, mais sortir pour se mettre à faire la volonté écrite de Dieu. Et nous, quand on a décidé de sortir des églises, on n'est pas sorti, la Michou et moi, tout seul, en disant, ben voilà, maintenant on a claqué la porte, qu'est-ce qu'on fait? Non, on a bien réfléchi avant, et on a bien prié avant, et on s'est entouré d'amis avant, avec lesquels nous avons prié, avec lesquels nous avons jeûné, avec lesquels nous avons étudié, jusqu'à ce qu'on sache qu'est-ce qu'on allait faire quand on allait claquer la porte. Et sortir du milieu d'eux, comme nous disait la Bible, c'est pas sur un coup de tête, ni sur un coup de cœur, c'est spirituellement, intelligemment qu'on doit faire les choses. Vous voyez? Donc, quand je vous dis que vous ne pouvez être autonome qu'à moins d'être obéissant dans l'église où vous êtes, vous voyez le grand écart qu'il vous faut faire, mais c'est quelque chose de normal. Vous pouvez pas, si chaque fois que quelque chose ne va pas, vous changez d'église, vous allez changer d'église tous les dimanches. Mais c'est pas ça que Dieu vous demande. Ce qu'il vous demande, c'est de vivre véritablement ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais vous pouvez pas le vivre tout seul. Vous devez le vivre en communion fraternelle. Parce que c'est comme ça que Jésus a enseigné les choses de la parole, de l'Église. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Ensuite, dans la communion fraternelle. Si vous persévérez pas dans la communion fraternelle, mais je suis désolé, vous ne faites pas partie du corps de Christ. On n'a jamais vu aussi, et ça existe. Ça existe, une main toute seule. En général, une main toute seule, elle est dans une poubelle parce qu'elle est gangrénée, puis on l'a coupée, puis on l'a foutue dans une poubelle, parce que sinon ça risquait de gangréner tout le corps. Mais on n'a jamais vu une main toute seule. Ou alors, oui, dans le film, là, comment ça s'appelle, là La famille Adams. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes la main de la famille Adams. Non, vous devez faire partie du corps de Christ persévérant dans la communion fraternelle. Si vous n'êtes pas dans la communion fraternelle, mais de quelle église faites partie? Vous avez été baptisé dans quel corps? Dans le corps mystique du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, ça vous arrange bien, ça. Mais c'est faux, vous vous illusionnez vous-même. Parce que vous ne pouvez pas avoir de communion avec Dieu que vous ne voyez pas si vous n'avez pas de communion avec vos frères et sœurs que vous voyez. Comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas alors que tu n'aimes pas les frères et sœurs que Dieu a créés et que tu vois? Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Voilà. C'est comme ça. Alors pour le dire avec plus de simplicité, vous êtes une brebis du Seigneur, une brebis autonome, quand vous marchez selon les règles. Selon les règles établies par Jésus. Alors, nous pensons, beaucoup de gens pensent être dans la vérité parce qu'ils ont fait un acte fort, ils ont quitté l'Église. On se sent toujours fort quand on a pris une décision aussi forte, mais ça n'est pas juste, ça n'est pas juste. On ne peut pas quitter et puis être tout simplement comme ça, dans son salon avec sa femme, sa belle-mère, sa belle-sœur, son beau-frère, et puis « Alléluia, le Seigneur est avec nous !» Non, il y a quelque chose qui ne joue pas, là. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Il vous faut prendre toutes les lois, il vous faut prendre toutes les ordonnances de la parole de Dieu, et tous les règlements que contiennent les Saintes Écritures. Nous les pratiquons autant que cela est possible. Voilà ce que Jésus veut, que nous prenions toutes ces lois, ces ordonnances, ces règlements, que nous les pratiquions autant que cela est possible, et que nous continuions d'apprendre et à progresser en étant enseignés, parce que Pierre n'était pas toujours en train d'enseigner, il écoutait aussi d'autres serviteurs de Dieu. Paul aussi, vous croyez que Paul, chaque fois qu'il allait dans une église, c'était seulement pour prêcher? Non, il savait s'asseoir et écouter aussi. Il faut recevoir, celui qui donne, il doit pouvoir recevoir. Alors, continuez à apprendre afin de pouvoir progresser jusqu'à ce que vous puissiez devenir vivant, que vous puissiez vivre de toutes les paroles de Dieu qui sortent de la bouche de Dieu. Voilà ce que Jésus est en train de dire. L'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. De toutes les paroles, pas de quelques-unes. Pas simplement de « sortez du milieu d'elle », mais de toutes les autres aussi. Hein? Voilà, ça c'est plus embêtant. Hein? Il y a des gens qui sont indépendants, oui, ils sont indépendants. Mais être indépendant, c'est pas un signe d'intelligence toujours. Hein? Quelle qualité d'indépendance avez-vous? Une brebis, de toute façon, il lui faut un berger. C'est comme ça. Ouais, moi j'ai Jésus, moi, arrête tes bêtises. On connaît, on en reparlera dans 10 ans. Si vous êtes encore là et si je suis encore là. Si vous faites ce que je vous dis là, vous ne risquerez pas d'être un mouton le mouton d'un mercenaire. Vous ne pourrez pas, ce n'est pas possible. Alors il est clair que personne ne peut avoir toutes les lois qui régissent la vie d'église et toutes les lois qui régissent la vie de famille ou la vie professionnelle ou la vie affective ou la vie émotionnelle dans toute leur plénitude parfaite. Personne ne peut recevoir toutes ces lois comme ça d'un coup. Par contre, oui, nous les avons toutes dans la Bible et quand nous tenons la Bible dans notre main, on a tout ça là dans notre main. Mais les connaît-on ? Pouvons-nous dire que nous connaissons tout ? Alors moi, ça fait depuis 68 que je la lis et je découvre encore des choses tout le temps. Par contre, nous pouvons recevoir un peu par-ci, un peu par-là, un peu aujourd'hui, un peu demain, un peu la semaine prochaine, un peu, et ainsi de suite, et ainsi de suite, si nous désirons absolument agir selon la plénitude de la connaissance que le Seigneur a l'intention de révéler peu à peu aux habitants de cette terre et en particulier à ceux de sa véritable Église. Mais il faut d'abord avoir le désir. Seigneur, j'ai le désir d'obéir à toute ta loi, à toute ta loi qui concerne la vie d'église, de famille, de profession, etc., etc. En avoir le désir réel, profond, vrai, authentique, pas simplement du bout des lèvres. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, dit la Bible. Alors, faut que ça soit au fond de vous, au fond de votre cœur, vous voyez. Nous avons à nous améliorer sur la base de chaque petite part à mesure qu'elle nous est révélée. Nous avons à nous améliorer sur la base de chaque petite part que Dieu nous révèle peu à peu. Voilà pourquoi les bergers qui n'annoncent pas la bonne nouvelle pour aujourd'hui sont à fuir. Du temps de Noé, c'était Noé qui avait le message. Ce n'était pas à tout le monde. Et il fallait suivre Noé. Et son message était bien précis. Du temps de Moïse, c'était Moïse. Voilà, c'est comme ça. Du temps d'Ézéchiel, c'était Ézéchiel. Du temps de Daniel, c'était Daniel. Du temps de Jésus, c'était Jésus. Maintenant, dans l'Église, c'est les pasteurs, c'est les apôtres, c'est ces cinq ministères. Mais c'est comme ça et c'est pas autrement. Et si les bergers d'aujourd'hui annoncent tout le temps un évangile qui parle d'il y a 2000 ans, mais qui parle de rien de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que Dieu veut pour aujourd'hui, fuyez-les. C'est un critère. L'autre jour, nous étions, Michou et moi, avec notre banquière, qui est adorable, et elle me disait, mais c'est formidable avec vous, parce que quand on parle de religion, on ne parle pas d'un vieux truc d'il y a 2000 ans, on parle de choses qui sont aujourd'hui. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que nous parlons d'un Jésus vivant maintenant, qui agit avec nous maintenant, qui guérit maintenant, qui nous conduit maintenant. C'est maintenant, c'est aujourd'hui. Nous avons un témoignage d'aujourd'hui. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune, on m'avait demandé de faire l'école du dimanche des enfants dans l'église protestante réformée du canton de Vaud, c'est-à-dire l'église nationale. Et j'étais instructeur des enfants, mais j'étais même pas converti. Et alors, je faisais ça, c'était bien. Et puis, un jour, je me suis converti. Et quand je me suis converti, ça a été un succès fou parce que je ne leur racontais plus simplement les histoires de Bartimée qui descendait de l'arbre. Non, c'est pas Bartimée, c'est Zachée qui descend de l'arbre. Et de Jonas dans le ventre du poisson. Non, je leur parlais de choses qui s'étaient passées là, aujourd'hui ou dans la semaine. Et c'était formidable. Et les gamins, c'était toute une autre ambiance. Et ils adoraient venir à l'école du dimanche, alors qu'avant, on connaît les histoires, on sait. Mais bien sûr. Alors, qu'est-ce que c'est votre berger ? Soyez pas des moutons, bien sûr. Vous ne pouvez pas faire autrement que d'être une brebis. Mais ce que vous pouvez faire, c'est choisir votre berger. Premièrement, il faut être sûr que c'est Jésus, le Jésus de la Bible. Puis ensuite, il faut être sûr que c'est le Jésus de la Bible dont votre berger parle. Et pas simplement le Jésus de la Bible d'il y a 2000 ans, mais de ce Jésus qui parle encore aujourd'hui. Parce que vous allez vivre de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu aujourd'hui. Mais si vous n'êtes déjà pas capable de connaître ce qu'il a dit autrefois, il ne va rien vous dire aujourd'hui. plus vous connaîtrez ce qui est écrit, plus il y a de chances qu'il vous parle pour les choses d'aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas habitué à écouter son esprit dans les Écritures, vous n'entendrez rien du tout. Vous serez trompé. Vous serez trompé. Est-ce que ça paraît logique ce que je vous dis là? Vous voyez, liberté et être un serviteur libre, c'est quand même bizarre. Mais c'est ça le grand écart avec Jésus. Hein. Parce que l'ignorance, c'est une menace. L'ignorance est une menace pour votre famille, parce que vous, en tant que chef de famille, eh bien, vous avez une responsabilité pour vos enfants et pour tous ceux de votre famille qui vous regardent. Et si vous êtes dans l'ignorance, vous êtes une menace pour tout le monde, parce que vous allez balancer des âneries. Combien de gens disent des âneries à leur mari ou à leur femme, croyant dire des choses bien, mais c'est complètement à côté de la plaque, et pourtant, elles prennent des paroles de Dieu dans la Bible. Mais se trompe! C'est pas à propos, c'est pas ce que Dieu veut dire. C'est comme si je vous disais maintenant, faut construire une arche, ça serait faux. Et pourtant, ça a été juste, mais à un moment donné. Aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui? Alors, l'ignorance est une menace pour votre famille, mais c'est aussi une menace pour l'Église. Un pasteur, s'il y a des pasteurs qui m'écoutent, si tu fais que de prêcher Jésus, le Jésus de la Bible et des apôtres et des prophètes et tout ce que tu vois dans la Bible, et puis que tu tires des histoires pour faire une bonne morale, pour encourager tes chrétiens, c'est très bien, mais Dieu a quelque chose à dire aujourd'hui pour son peuple. Qu'est-ce que c'est que ce message pour aujourd'hui? Alors, il faut que tu le saches. Si tu ne le sais pas, il faut que tu ailles sur tes genoux, pasteur, parce que sinon, tu vas tourner bredingue, hein. Parce que le Saint-Esprit va s'éloigner de toi et tu vas devenir simplement un religieux. Et c'est une menace pour votre vie personnelle, c'est une menace pour votre pays, c'est une menace finalement pour le monde entier est dans un état épouvantable parce que les chrétiens, eh ben, ils n'ont pas fait leur boulot, ils ont la plupart du temps pas fait leur boulot, parce que dans leur église, on leur a dit non, il faut pas le faire tant qu'on n'a pas reçu l'appel de Dieu, et tant qu'on n'a pas fait 3 ans d'études, et tant qu'on n'a pas notre carte de pasteur, etc. Ils ont enlevé des ministères magnifiques, ils ont interdit des ministères magnifiques, et le monde est plongé dans les ténèbres à cause de cela. Mais vous voyez ce que je veux dire? L'ignorance, c'est une menace. Je parlais avec un gitan, qui est un vieux pasteur, et qui me soutenait qu'on n'avait pas le droit d'imposer les mains tant qu'on n'avait pas de carte de pasteur. Alors j'ai montré Marc chapitre 16. Oh, il n'en venait pas. Un pasteur en France! Mais c'est infernal, mes frères et sœurs. Mais il était tellement mal formaté, celui-là. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Une menace. L'ignorance est une menace. Quand les apôtres sont morts, très vite, des mercenaires se sont imposés et ont menti aux brebis du Seigneur. Puis d'autres sont venus pour les étourdir. Et puis d'autres sont venus pour les endormir. Puis d'autres sont venus pour les trahir. Vous avez vu, ça finit toujours par « ir ». Hein? Mentir, étourdir, endormir, trahir. Et de nos jours, on a la collection complète. On a l'intégrale. Hein? Il y en a qui s'achètent l'intégrale des sœurs Rosio ou l'intégrale de France Gall. Et ben là, dans les églises, ils ont l'intégrale. Ils ont la collection complète, les menteurs, les étourdisseurs, les endormisseurs et les traîtres. Tout ça dans un même pack pour 19,95 €, ma bonne dame, c'est pas cher. On leur ment, on les étourdit, on les endort, on les trahit. Et puis, en plus, on les menace si on s'aperçoit qu'ils voient dans le jeu qui est en train de se faire. On les menace. Tu ne dois pas quitter ton assemblée! Et ça fait peur aux gens. Mais ils sont tellement étourdis. Ébobis. Il y a un mot comme ça. Je crois que c'est ébobis. Ou enfin, voilà. Un peu benet, quoi. À force d'entendre tout le temps les mêmes trucs. Je vais vous dire une chose, mes frères et sœurs. Le peuple chrétien a les bergers qu'il mérite, finalement. C'est comme la France. Elle a le président qu'elle mérite. C'est comme les États-Unis. Ils ont le président qu'ils méritent. Puis c'est tout. Parce que un peuple de moutons finit toujours, excusez-moi, par engendrer un loup. Vous allez me dire que c'est contre nature. Parce que vous avez vu que dans la nature, il y a des choses contre nature, vous. Il n'y a pas de choses contre nature dans la nature. Il y a tout dans la nature. Il y a des choses que vous n'aimez pas, mais qui sont dans la nature et qui existent quand même et qui vous semblent contre nature, mais qui ne sont pas contre nature, qui sont naturelles. C'est pas surnaturel. Simplement, c'est pas dans le plan de Dieu, c'est tout. C'est comme ça dans l'Église, c'est comme ça dans la politique, c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. Alors oui, la vérité vous rendra libre, mais elle va d'abord vous déranger. Elle commence toujours par déranger. J'avais fait une vieille prédication en prêchant que la première chose que Dieu a dit à Adam et Ève, une fois qu'ils ont fait leur bêtise, il a dit « Hé, vous êtes où ?» Ça les a dérangés. Ils ont vite été se cacher dans la forêt lointaine. Ben oui, c'est toujours comme ça. Dieu dérange, la vérité dérange. Le problème, c'est l'endormissement des brebis. Comment elles ont été endormies ? Fermez les yeux, vos paupières sont lourdes, n'est-ce pas ? Elles sont hypnotisées dans ces réunions. Alors, à cause de cet endormissement, ils sont si confortables, n'est-ce pas ? Dans leur « je suis sauvé, j'ai l'assurance du salut, alléluia, Jésus revient bientôt, c'est merveilleux. » À part tout ça, madame la marquise, tout va très bien, tout va très bien. Si on commence à être autonome, comme je vous le disais au début de ma prédication, on n'a plus peur du « qu'en dira-t-on » de « qu'est-ce que la sœur ou le frère machin va dire ?» On va ruer dans les brancards si on voit que ça va pas. Mais comme ils dorment, alors c'est tellement confortable. Pourquoi est-ce qu'on va se laisser déranger et puis commencer à se faire des ennemis avec tous ces gens qui dorment autour de nous? C'est si chaud, c'est si bien. Bonjour sœur, comment allez-vous? Et en soi-même on dit, pourvu qu'elle ne me réponde pas parce que ça m'embête drôlement qu'elle commence à me raconter tous ces bobos. Ça va sœur, alléluia. Oui, oh, mais dites-moi, mais vous changez pas, sœur, c'est magnifique. Puis on entend un vieux boudin, bon, j'en passe, on connaît, c'est si confortable, n'est-ce pas, toute cette espèce de mélasse religieuse, n'est-ce pas, ce confort, inconfortable, où il n'y a rien qui nous dérange, tout est lisse, voilà. Puis frères et sœurs, les églises apostates, lorsque vous ne serez plus effrayé par le troupeau de moutons qui est là-dedans et par le mercenaire qui est là-dedans, vous ne serez plus un mouton, vous serez un lion. Jésus, c'est le lion de Judas, c'était aussi un mouton. Mais à un moment, c'est devenu un lion. Non ? Ben oui. Quand vous aurez plus peur de croire que les gens vont vous laisser tomber parce que vous ne croyez pas tout à fait la même chose qu'eux, eh bien, il y a un rugissement qui va sortir de votre cœur. Et ce sera le rugissement de la liberté, de la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Ou un rugissement, c'est autre chose. Alors, bien sûr, vous êtes, et nous sommes des brebis, mais nous sommes destinés à devenir des lions, il faut qu'on s'y prépare. Faut pas qu'on accepte n'importe quoi, pas du tout. C'est pourquoi je vous encourage toujours à venir me trouver quand il y a quelque chose qui va pas. Et vous avez raison de le faire. Mais si vous avez tort quand vous venez me dire quelque chose, je peux aussi le prouver, hein. Puis voilà. Puis si vous voulez continuer dans votre erreur, ben vous vous séparez, et puis c'est tout. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, comme dit Nicolas. Les mercenaires qui prêchent sur la chair et qui ne s'inquiètent absolument pas de comment vous vivez, ça court les églises. Ça ne les inquiète pas. Ce qui les inquiète, c'est ce que vous voulez. Ils ne veulent pas que vous sachiez ce que vous voulez. C'est pourquoi ils continuent à vous endormir avec des fables, avec des histoires. S'ils vous donnaient ce que vous voulez, le bon et juste enseignement de la parole de Dieu que vous croyez avoir mais que vous n'avez pas dans les églises, c'est fini ce temps-là, il n'y a plus, c'est terminé. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes. Nous avons le plein évangile qui se résume à ça. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit et il revient bientôt. Point barre. Dieu dit plus rien, c'est fini, il n'y a pas d'autre plan, c'est terminé. Si vous aviez véritablement le désir d'en savoir plus pour pouvoir vivre davantage la parole de Dieu, pour pouvoir être davantage utile dans ce monde, dans votre famille, dans votre église, partout là où vous êtes, dans votre profession, partout, alors, mais ils ne veulent pas que vous ayez cette bonne parole de Dieu, parce que si vous l'avez, vous, mais ils vont devoir se mettre eux aussi à la prêcher, sinon leur boulot, ben, ils vont le perdre. Vous comprenez? Alors ils ont la trouille, ils ne veulent pas que vous sachiez. Alors ils vous disent, il ne faut surtout pas aller écouter, j'entends, c'est un hérétique. Et hop, ça y est, c'est un hérétique, il ne faut pas l'écouter. Le bon pasteur a dit. Il faut que nous suivions Jésus dans son église rétablie telle qu'elle était au temps de Jacques, de Pierre, de Jean, qui étaient véritablement des gens ordonnés par Jésus. L'amour qu'il vous prêche dans ces églises, pas tous, je le dis bien encore, mais la plupart du temps, ça provient de leur déséquilibre personnel. Ce n'est pas de l'amour selon ce que... C'est pas de cet amour-là dont Jésus parle. Ils sont en train de vous parler d'une sorte de passion religieuse désordonnée qui les conduit soit au légalisme, vous connaissez ça, on en a connu, hein. Il faut que les femmes s'habillent comme ça, il faut qu'elles aient les cheveux comme ça, il faut qu'elles aient les robes comme ça, les hommes coiffés comme ça, pas de moustache, pas de ci, pas de ça, pas boire d'alcool, pas d'internet, pas de téléphone, rien. Vous devez écouter que moi. C'est ainsi dit le Seigneur. Sinon, la colère de Dieu va s'abattre sur toi. Enlève toutes les photos que tu as chez toi. Moi, j'avais des photos de Sylvie Vartan, d'Alain Delon, de James Dean, de Johnny Hallyday. Ils m'ont tout fait enlever. Oh là 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 là, mes murs étaient moches après. Mais bon, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Alors, j'ai acheté un affreux petit tableau chrétien avec une affreuse brebis. Au bout d'un moment, j'ai enlevé, puis j'ai remis Johnny Hallyday. Hein. C'est quand même plus joli. C'est plus... Mais voilà, quoi, il faut... Pardon, pardon, mais mince à la fin. C'est pas ça la vie chrétienne. C'est pas ça la vie chrétienne. Mais ils nous font croire que c'est ça la sanctification. C'est pas ça la sanctification. C'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est de se mettre à part pour pouvoir servir Dieu. Servir Dieu dans l'ordre établi par Dieu et qui est confirmé par Dieu ensuite, par des choses miraculeuses. Dieu est un Dieu d'ordre, et eux, ils prêchent une espèce d'amour passionnel, religieux, désordonné. C'est de la folie totale. Les chrétiens modernes sont persuadés qu'il n'existe pas une autre façon de vivre la foi que celle que leur présente leur église apostate. Ils sont persuadés de ça. Ils sont persuadés que c'est eux qui ont raison. Et c'est parce qu'ils pensent comme ça qu'il peut y avoir des papes et qu'il peut y avoir, n'est-ce pas, des bureaux centraux, de généraux de l'Église qui dirigent tout et qui conduisent tous ces moutons, des moutons là. Dans une illusion qu'ils sont dans la vraie Église de Jésus-Christ. Et qui, moi je me souviens quand j'allais à l'église, en sortant du métro, c'était à Lausanne, alors on était pour aller à l'église, on était obligé de passer devant une autre église qui s'appelait l'église apostolique. Et moi j'allais dans l'église des Assemblées de Dieu, qui était juste 40 mètres plus loin. Alors on nous disait bien, attention, s'il vous donne un tract, ne le prenez pas, parce que ça vient du diable, même le fait de le prendre, ça peut vous lier. C'est terrible. Ou alors à Yverdon, où j'allais aussi, parce que j'étais formé pour être pasteur, et bien juste au coin de la rue, là où il y avait l'église de Pentecôte, des Assemblées de Dieu, au coin de la rue, un peu plus loin, il y avait l'église de... Comment ça s'appelait déjà? Je ne sais plus, c'était une femme qui dirigeait ça. Je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais ça existe toujours, et eux, ils font du boulot, alors que l'église de Pentecôte, ils sont trois plis, quatre tendus. Là-bas dedans, il y a du boulot qui se fait. Eh bien, on me disait, faut pas y aller. On y est allé une fois. Eh bien, quand on est ressorti, on a vomi la Sainte-Seine. Tellement que c'était diabolique. Oh, mais alors, heureusement, je suis tombé dans la bonne église, dans la vraie église. Ah, merci Seigneur et tout. Puis après, j'ai lu dans les Écritures, j'ai vu que c'était pas ça. Je ne peux pas dire que c'est une fausse église, les assemblées de Dieu. Mais vous avez parmi eux des gens qui sont faux. Ben, je suis parti, puis c'est tout. Voilà. Et je suis pas parti tout seul. Ils m'ont foutu dehors. Parce qu'ils ont trouvé que mon ministère était trop voyant, n'est-ce pas? Il y avait trop de miracles, il y avait trop de baptême dans le Saint-Esprit, alors le pasteur était un peu jaloux, alors il m'a fourré dans des pattes de Teen Challenge pour que j'aille exercer mon ministère plus loin, à Paris, n'est-ce pas? Et comme, c'est comme ça que je suis sorti du milieu d'eux, je ne suis pas parti en claquant la porte, c'est eux qui m'ont foutu dehors, avec beaucoup d'amour, hein. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est rigolo. J'ai jamais claqué la porte, nulle part, mais simplement, quand je voyais que ça n'allait plus, ben, je criais à Dieu, puis le Seigneur me sortait de là, avec beaucoup, beaucoup d'amour et de bonnes intentions. Parce qu'ils m'ont promis un salaire depuis 1969, et je l'attends toujours. Je n'ai jamais vu un sou. Bon, ça c'est dit. Alors, oui, certains cherchent la vérité, et ils se plaignent, mais en même temps, ils veulent maintenir le système de l'Église où ils végètent. Ils veulent pas, n'est-ce pas, ils n'ont pas ce courage, cette puissance d'autonomie dont je vous parlais au début. Où est passée votre autonomie spirituelle? Vous voyez de plus en plus, à la veille des élections présidentielles, ne soyez pas des moutons. Je vous le dis aussi dans l'Église, ne soyez pas des moutons, soyez des brebis du Seigneur qui suivent Jésus, le bon berger, qui a nommé de véritables bergers dans sa véritable Église qu'il est en train de rétablir. Suivez-vous un homme, suivez-vous Jésus. Vous pouvez suivre un homme si cet homme suit le Seigneur Jésus-Christ. Rentrez chez vous, lisez votre Bible, lisez les quatre évangiles, relisez les actes des apôtres, et puis pensez, est-ce que c'est ça que je vis? Votre christianisme est-il correct? En lisant les évangiles et en lisant les actes des apôtres, dites, est-ce que ma façon de vivre ma foi chrétienne est correcte? Est-ce qu'elle est comme ce qu'eux vivaient? Vous aurez la réponse tout de suite, je vais vous le dire. Si vous voulez être libre, sortez de l'ignorance. Si vous voulez être autonome, commencez par apprendre. Sortez de l'ignorance. Alors je comprends qu'il peut être difficile de savoir où se trouve la parole de Dieu pour notre temps, pour notre époque. Je comprends que ça peut être difficile, parce qu'on est encerclé par tant de voix désireuses, n'est-ce pas, de défier la vérité au nom d'une autre vérité. C'est difficile. Alors je vous invite à lire 1 Timothée 4, 12. Où il est dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle. Alors maintenant que personne ne méprise non plus tes cheveux blancs, hein, ou ta calvitie, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà. Une brebis du Seigneur se nourrit de la parole du Seigneur et devient un modèle pour les fidèles, premièrement. Ce que Paul veut nous dire, c'est que nous avons à connaître la vérité, puis à enseigner la vérité, puis ensuite à défendre la vérité comme notre Père Céleste le désire. C'est-à-dire avec respect, avec compassion, avec un amour profond, comme celui qui animait notre Seigneur Jésus, et non pas à la mode d'aujourd'hui. Moi, quand je vois aujourd'hui, les bons pasteurs, comment ils s'adressent aux esprits? Je ne parle même pas de comment ils s'adressent à Dieu, je parle, par exemple, supposons comment ils s'adressent aux démons même. Mais ils leur hurlent dessus, avec une violence. Jésus ne parlait pas comme ça, il parlait avec autorité. Il parlait avec autorité, mais il n'était pas obligé de hurler, de gesticuler, de crier, et de brandir le poing, et de faire toutes ces simagrées. Bon, ça c'est comment il parle aux démons, mais maintenant vous avez entendu parler à Dieu. Père éternel, tu as dit dans ta parole, alors maintenant accomplis ce que tu as promis, oh Dieu tout-puissant, fais ce que tu as dit. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on parle à Dieu? Non, c'est pas comme ça. Il faut que tu parles avec respect, avec compassion, avec un amour profond, comme celui qui animait le Seigneur Jésus. Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Et si je te prie, ce n'est pas pour autre chose qu'à cause d'eux qui sont incrédules. Et voilà, comme un fils qui parle avec son père, montrant, n'est-ce pas, qu'il a une totale confiance, qu'il n'est pas obligé de prendre son père pour un malade mental à qui il faut hurler. Là, tout à l'heure, juste avant le culte, on est allé à une séance de dressage pour notre chien. Eh bien, notre chien, je lui dis, assis, il s'assied. Vous en avez là-bas, il gueule comme des malades, le chien, il s'assied pas. Hein. Voilà, avec autorité. Eh bien, voilà, il faut apprendre à faire toutes ces choses-là. Il faut apprendre, on apprend dans la parole de Dieu, on voit comment Jésus faisait. Nous avons à défendre ce que nous savons être juste, mais pas en considérant les gens comme des ennemis sur lesquels nous devons tirer à bout portant. Même sur les démons, on n'a pas à leur tirer dessus à bout portant comme des ennemis. Regardez, l'archange Michel, quand il a parlé au diable, mais il a choisi ses mots. Hein. Il a choisi ses mots, il n'a pas insulté, il n'a pas hurlé, il n'a pas crié. Dégage! Non. Mais c'est épouvantable. C'est épouvantable. Moi, j'ai fait ça. Ah ouais, j'étais pentecôtiste, je faisais ça, puisque les pentecôtistes faisaient ça. Après, j'ai réalisé en lisant la Bible que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Cela, ça peut nous sembler étrange, c'est vrai. Parce que nous avons à lutter contre la méchanceté des mercenaires, contre l'hypocrisie des hypocrites. Nous avons à lutter contre les moutons suiveurs, qui bêlent fort parce qu'ils sont un troupeau assez nombreux, contre toutes sortes de méchancetés spirituelles. Et nous devons être des témoins de Dieu en tout temps et en tout lieu. Et tout ça au milieu des loups, au milieu des brebis un petit peu dingos. Et voilà, on doit être des témoins fidèles de notre Dieu. Tout en entrant dans ces milieux où il y a des tensions, nous devons éviter les querelles dans la mesure du possible, éviter les querelles. Nous ne devons pas seulement être des gens qui font la paix avec tout le monde, mais nous devons rechercher activement ce qui contribue à la paix. C'est ce que nous dit Romains chapitre 14, verset 19. Alors, des fois, c'est pas facile, et il faut du temps. Le temps émousse les choses et le temps permet à Dieu de mettre à l'épreuve les uns et les autres jusqu'à ce que ce soit le bon moment. Donc il faut aussi avoir beaucoup de patience, il faut mesurer notre sagesse et voir ce qu'il nous manque, ce qui manque à notre mesure de sagesse. Voilà pourquoi nous devons aller sur nos genoux pour invoquer notre Dieu, afin de recevoir de lui toute cette sagesse pour pouvoir devenir autonome, parce que sinon nous ne serons pas autonomes, nous serons simplement des électrons libres qui iront dans n'importe quelle direction, faire n'importe quoi, n'importe quand. Cette sagesse, elle nous sera donnée à mesure que nous en aurons besoin. Il ne faut pas non plus attendre qu'elle vienne pour y aller. Il faut prier et ensuite y aller et se rendre compte que la sagesse nous accompagne. Parce que nous ne sommes pas des moutons suiveurs, nous sommes les brebis du seul Seigneur qui est Jésus-Christ, qui sait très bien comment agir avec nous. Et que nous avons reconnu sa voix, nous pouvons toujours reconnaître encore sa voix dans l'Église rétablie, dans l'Église qui est en train de se rétablir, malade qu'elle est, et nous pouvons être des modèles dans l'Église, parmi les saints, mais aussi en dehors, et il ne faut pas hésiter d'y aller et de manifester la sagesse en croyant qu'après l'avoir demandé, vous l'avez reçu. Vous voyez les grands écarts que nous sommes appelés à faire. Ça demande beaucoup de sagesse, mais la sagesse est un don de Dieu, et Dieu ne la refuse jamais à celui qui la demande. Alors oui, on a gagné d'avance. On a gagné d'avance. Simplement, ce qu'il faut, c'est être vraiment certain de nos intentions. Que Dieu vous bénisse chacun. Amen. Merci Jésus de nous aider à nous parfaire afin d'être plus à ta gloire encore en toute situation et que nous puissions démontrer ta fidélité, ta bonté, ton amour par nos actes. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen.